explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Mais croyez-moi que je peux regarder les paysages par le hublot.
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Inspirer profondément, retenir son souffle et plonger en apnée de longues minutes dans les eaux glacées de l'Antarctique. C'est l'aventure dans laquelle se sont lancés Laurent Marie et Tanguy Le Goff. Loin de tout, ils ont pénétré un monde d'eau d'une beauté insoupçonnée, découvert la face cachée des montagnes de glace à la dérive, la fameuse partie immergée des icebergs. Ils ont nagé des heures avec des baleines ensorcelées par leur chant. Cette biodiversité, le biologiste marin Bruno David la connaît bien, lui aussi à plonger dans l'océan Antarctique. Le temps d'un bivouac, ils vont partager les sensations et les moments inoubliables qu'ils ont vécus dans les eaux glaciales qui bordent le continent blanc.
Bon voyage !
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Aujourd'hui, nous sommes donc en compagnie de deux apnéistes, Laurent Marie et Tanguy Le Goff. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Daniel.
Et merci d'avoir fait le déplacement depuis Brest, malgré les circonstances. L'expédition que vous avez menée en Antarctique a donné lieu à un documentaire intitulé Un monde de glace, réalisé par Jérôme Demaison. Nous en entendrons des extraits dans cette émission. Également avec nous, en duplex, depuis un studio de France Bleu Cotentin à Cherbourg, Bruno David, directeur de recherche au CNRS et spécialiste liste de la biodiversité marine. Bonjour Bruno David.
Bonjour Daniel.
Alors à partir de septembre, vous occuperez même de nouvelles fonctions puisque vous deviendrez le nouveau directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle. Félicitations à vous.
Merci, oui, je serai président exactement de ce muséum et évidemment c'est une fantastique aventure et je suis ravi d'aborder cette nouvelle phase de ma vie et de ma carrière.
Vous allez tous les trois nous emmener dans une plongée givrée dans les eaux de l'Antarctique à la découverte des morses, des baleines et de la face cachée des icebergs. Nous sommes en direct, les auditeurs peuvent nous adresser leurs questions en allant sur Twitter avec le hashtag bivouacfi ou sur notre boîte vocale au 01 56 40 69 78 01 56 40 69 78. En deuxième heure, c'est le photojournaliste Reza qui nous emmènera avec lui en voyage. Voilà pour la feuille de route de cette émission réalisée par Anne-Sophie Ladonne et préparée par Fanny Cohen-Moreau et Claudia Bertram.
Ça fait 4 minutes que je suis au fond de cette forêt de kelp. 240 longues secondes sans oxygène où la vie continue de battre dans mes veines. Mes pulsations cardiaques sont tombées à 35 par minute. Engourdi par le froid dans cette eau à 5 degrés, je me sens extrêmement calme. Nul besoin de respirer. L'apnée, c'est un chemin de vie. Ça demande un entraînement et une discipline de fer. Un seul but, résister à l'irrésistible nécessité de respirer. L'apnée apprend à se connaître et repousser ses limites. Elle ouvre en silence les portes d'un royaume mystérieux et offre un accès privilégié aux merveilles sous-marines.
L'apnée, une façon d'aborder le monde avec une grande sérénité à entendre l'introduction de ce documentaire Un monde de glace qui retrace cette épopée que vous avez vécue l'un et l'autre. C'est vraiment comme ça qu'on se met dans cet état d'esprit très zen, prêt à recevoir le monde avant de plonger d'embarquer dans une plongée en apnée.
Oui, voilà, l'apnée, il faut faire corps avec l'élément. Il faut être relâché, accepter l'eau froide, accepter la pression. Et une fois qu'on tente d'être relâché, eh bien, on peut absorber cet univers. Alors, l'Antarctique, c'est incroyable, hein, justement, parce qu'on voit tous ces animaux, ouais. ces grands mammifères, ces baleines à bosse qui peuvent faire 15 mètres de long, jusqu'à 25 tonnes. Ensuite, on en voit d'autres, hein, on voit les phoques léopards, les manchots papous. Et on absorbe toute cette belle énergie, justement, pour après tenter de sensibiliser les enfants à cette biodiversité incroyable.
Alors, vous l'absorbez particulièrement, vraiment dans votre chair, parce qu'en ressortant de l'eau, vous faites des tests de glycémie, et puis on se rend compte que, évidemment, l'eau est tellement froide que vous êtes complètement en hypoglycémie, avec des chiffres, même la machine qui mesure votre taux de glycémie, vous atteignez ses limites, quoi.
Oui, voilà, on peut rencontrer de l'eau qui va de moins 1,8 jusqu'à 2 degrés. Ouais. Et on a des combinaisons humides, donc c'est vrai que le froid nous pénètre, hein, concrètement. Et bien sûr, on va au-delà de nos limites. Parce que notre objectif, c'est de s'imprégner de cette eau froide pour comprendre l'Antarctique dans son ensemble.
Tanguy Le Goff, vous qui avez l'habitude de plonger en apnée dans les eaux bretonnes, il y avait une vraie différence cette fois avec les eaux de l'Antarctique.
Alors effectivement, une grosse différence parce que on reste forcément beaucoup moins longtemps, mais l'objectif pour nous, c'est un petit peu quand même d'oublier ce froid, d'essayer de l'accepter, de faire corps avec l'élément, avec le milieu, pour justement pouvoir interagir avec les animaux le plus longtemps possible.
Quelle sensation on ressent quand on est en apnée dans cette... On doit être un peu anesthésié en plus par le froid de cette eau qui descend en dessous zéro, parce que comme c'est de l'eau salée, évidemment, on peut descendre en dessous de zéro, elle ne gèle pas à cette température-là. Quelle sensation? On est un peu dans une forme de léthargie?
Non, en fait, tous vos sens sont en éveil. Quand vous êtes en immersion, vous explorez la face cachée de l'iceberg. Et ça, c'est un rêve d'enfant. Donc de découvrir ce monde mystérieux, c'est quelque chose qui est un peu euphorique. Ensuite, quand vous voyez des animaux, les baleines, même si elles sont censées s'alimenter pendant cet été, pendant l'été austral, elles chantent. Et ce chant, ces ondes se propagent beaucoup plus rapidement sous l'eau, et ce chant vous pénètre. Il vous fait vibrer de l'intérieur.
Mmh. On va y revenir aux baleines, hein. Ne dévoilez pas tout. C'est vrai que c'est le climax vraiment de cette aventure. Une très longue plongée de 4 heures avec les baleines et on aura l'occasion d'y revenir. Bruno David, chercheur au CNRS, vous avez également plongé en Antarctique, mais alors vous, c'était avec des bouteilles. Quel regard vous portez sur ces apnéistes?
Je suis totalement admiratif parce que moi, en fait, j'ai une expérience de plongée avec toute une quincaillerie sur le dos.
Ouais.
Assez lourde d'ailleurs à transporter, mais qui est nécessaire. Parce qu'on travaille au fond, et je vous expliquerai un petit peu plus si vous le souhaitez. Mais je suis très admiratif de ce qu'ils ont fait, parce que plonger en humide dans des conditions comme ça, en plus en apnée, c'est vraiment quasiment surhumain. À côté d'eux, moi, je suis en première classe.
Hein, ouais.
C'est du tout confort.
Quel souvenir vous gardez, vous, de ces plongées? Vous avez, vous aussi, plongé dans les eaux les plus froides de la planète?
Alors écoutez, j'ai beaucoup de plongées en Antarctique parce que j'ai commencé à plonger aux îles Kerguelen. Alors c'est pas encore l'Antarctique, c'est ce qu'on appelle le subantarctique. Donc c'est des eaux beaucoup plus tièdes, elles sont entre 3 et 5 degrés. Puis après j'ai plongé dans le haut Antarctique, en Terre Adélie, j'ai plongé autour de la péninsule Antarctique. Donc j'ai pas mal de ces expériences. Ce que je garde comme souvenir, c'est certains paysages extraordinaires avec des eaux totalement limpides, totalement transparentes. Ça évoquerait presque des récifs de coraux. Sauf qu'à la place des coraux, on a des éponges. Mais on a une richesse de couleurs, une biodiversité incroyable et un contraste phénoménal entre ce qu'il y a sous l'eau et ce qu'il y a sur le continent qui est totalement désert.
Oui, c'est ce à quoi on s'attend pas forcément, mais dans cette région du globe, même si effectivement les îles sont relativement pauvres en biodiversité, sous l'eau, ça regorge de vie. C'est ça?
Si vous voulez, le continent, il est désert parce que il y a que l'énergie solaire un petit peu, mais pas beaucoup. Il y a pas de végétation, donc il y a pas d'écosystème qui se développe directement sur le continent, sauf un tout petit peu sur les marges à certains endroits. Par contre, en mer, il faut savoir que les eaux froides contiennent plus d'oxygène que les eaux chaudes. Elles sont relativement propices à la vie. Elles sont même franchement propices à la vie. Et donc, la vie explose sous l'eau. Il y a une vie incroyable, à la fois en termes de richesse, c'est-à-dire de nombre d'espèces présentes, mais également en termes de biomasse, en termes de quantité de la vie qui est présente, et c'est un contraste extraordinaire entre ce qu'on a dehors et ce qu'on a sous l'eau.
Eh bien, on va partir justement à la découverte de cette vie qui explose sous la banquise en Antarctique, la face cachée de la banquise, avec deux apnéistes et un chercheur spécialiste de la biodiversité marine. Jusqu'à 15h, pour poser une question à nos invités, eh bien, il y a la page de l'émission, toujours sur franceinter.fr, la boîte vocale 01 56 40 69 78. Et vous le savez, le temps d'un bivouac a sa page Facebook sur laquelle les discussions vont bon train.
Dès que je suis au contact de l'eau, dès que je suis avant mes plongées, je deviens non pas un Zarathustra ou un super-homme, je fais partie du vent, de la mer, des mouettes, je sais pas, je deviens autre chose.
Laurent Marie et Tanguy Le Goff sont les apnéistes invités de ce temps d'un bivouac et nous sommes également avec Bruno David, spécialiste de la biologie marine. Là, on entendait vos respirations, puissantes respirations, inspirations, on souffle avant de pénétrer l'univers aquatique en Antarctique. Et vous le dites, il faut se rapprocher le plus possible de venir un animal marin. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça, Laurent Marie?
Ça veut dire être calme, bien se ventiler et puis profiter de cet air pur aussi en Antarctique. Descendre par l'expiration ses pulsations cardiaques. Et puis ensuite, accepter aussi le froid. Voilà. Donc une fois qu'on s'immerge, eh bien, on ouvre les yeux et puis on peut observer, on est dans de bonnes conditions pour s'ouvrir au monde sous-marin en sécurité avec ses amis.
Tanguy Le Goff, ce petit qu'on entend là, cette façon de pomper l'air jusqu'à presque se faire exploser les poumons, c'est quoi cette gymnastique là?
Oh, ça fait partie un petit peu de notre système avant, notre routine avant de démarrer. C'est une routine physiologique et une routine mentale pour nous mettre en condition de calme mental d'abord, mais aussi en calme de contrôle de son rythme cardiaque. Donc ces petits mouvements-là nous permettent vraiment nous calmer complètement. Et une fois qu'on est vraiment calme, on est capable très facilement de descendre dans ce milieu de manière tout aussi calme, sans stress, et complètement reposé.
Et ce lieu, ce décor, il était apaisant. Décrivez-nous cet endroit où vous êtes arrivé. Alors, il a fallu faire un sacré parcours. Vous êtes parti de Ushuaia en terre de feu chilienne, puis il a fallu traverser les océans avec une houle pas croyable. Je crois que tout le bateau ou presque était malade à bord. Tanguy Le Goff, vous me confirmez ça?
Effectivement. Alors une bonne partie de l'équipage n'a pas trop vu le voyage, mais on a fait face en fait à une houle importante et des vents jusqu'à 35-40 nœuds qu'il a fallu gérer à bord du bateau pendant toute la traversée, pendant les 500 milles qui nous séparent de l'Antarctique.
Et alors une fois qu'on arrive, décrivez-nous ce panorama que vous avez en face de vous.
Eh bien, on voit des montagnes blanches, alors qui peuvent faire 1000 mètres, 2000 mètres d'altitude. Hein. Il y a le point culminant de l'Antarctique, c'est un petit peu plus grand que le Mont Blanc, c'est le Mont Vinson. Et là, tout de suite, quand on arrive en Antarctique, eh bien, on voit des baleines. L'Antarctique, c'est une terre de paix pour les bienfaits de l'humanité. Et puis tout de suite, voilà, des baleines qui s'alimentent de krill. Voilà, elles font leur réserve, en fait, pour pouvoir remonter ensuite. Ils font leur réserve de nourriture, hein, elles s'alimentent de krill. C'est la biomasse la plus importante en protéines sur Terre, 500 millions de tonnes environ.
Ouais.
Alors on n'est pas scientifique, mais on s'intéresse aussi au plancton. Comme ça, ça nous sert de montrer ces images que l'on fait ensuite de nos prélèvements planctoniques à des enfants.
Alors Bruno David, vous qui êtes scientifique, c'est pas étonnant de trouver ces animaux, ces baleines dans des eaux aussi froides? Pourquoi viennent-elles là?
Donc, comme je vous le disais, les eaux froides sont souvent des eaux extrêmement riches. Si on pense aux remontées d'eau du fond qu'on appelle des upwellings, qui sont le long des côtes, c'est les zones les plus poissonneuses qu'on a le long des côtes du Pérou, le long des côtes de l'Angola ou de la Namibie par exemple. Donc les eaux froides sont généralement très très riches. Le krill, pour parler du krill, c'est l'espèce la plus abondante sur Terre en termes d'espèces. C'est l'espèce qui a le plus grand nombre d'individus sur Terre. Ça se chiffre en milliards de milliards de milliards d'individus. Et les baleines s'en nourrissent. Voilà, donc ce sont des eaux très riches. C'est pas étonnant qu'on ait des grands mammifères qui consomment évidemment beaucoup parce qu'ils sont très gros, qui viennent se nourrir dans ces régions-là, qui sont des régions très riches en biodiversité, comme je vous le disais, à la fois en biomasse, c'est-à-dire ce que pèse la biodiversité, mais également en richesse, c'est-à-dire en nombre d'espèces qui sont présentes dans ces eaux-là. Et je pourrais vous essayer de vous expliquer pourquoi il y a tant d'espèces dans l'océan australien.
Alors la biodiversité effectivement importante dans un décor féerique, magnifique, avec de la glace, ces montagnes à perte de vue. Et la glace, ça s'observe aussi du dessous. Ce n'est pas exactement le même spectacle que vous avez observé à partir du moment où vous avez plongé au contact donc de la base de ces icebergs.
Ces vaisseaux de glace échoués, battus par les vents catabatiques, dont les formes souffrent en surface, offrent sous l'eau une quille massive, sculptée en millions de facettes. La face cachée du colosse libère une symphonie de lumière et transforme ses parois en autant de miroirs où se reflète à l'infini notre passion pour la pesanteur.
Alors, on sent que vous avez été fasciné. Là, on n'est pas encore au contact des animaux. C'est juste le décor et déjà, il semble absolument magique. Dans votre documentaire, on voit ce contact avec la glace que vous caressez. On a une impression de vertige parce que vous êtes vraiment à l'aplomb de falaises de glace dont vous ne voyez pas le fond.
Oui, donc là, sur ce tombon de glace, il y a à peu près 100 mètres de profondeur. Donc au départ, c'est vrai que c'est assez clair, l'eau est claire. Et donc, vous faites votre canard. Vous descendez, vous explorez cette paroi comme si on était un peu en quelque sorte des alpinistes à l'envers,
ouais.
Et on descend. Voilà. Une fois qu'on est en flottabilité négative, eh bien on se sent comme happé, attiré par le fond. On se laisse littéralement glisser vers ce monde méconnu qui s'assombrit peu à peu. Et là, c'est quelque chose de très fort.
Aucune angoisse d'aller vers ce trou, ce vide, ce sombre.
Non, parce qu'on sait pourquoi on est parti. Voilà, on est parti pour explorer ce monde en apnée. On s'est entraîné pour. C'est un projet qui nous a pris du temps pour sa préparation. Et donc, on fait ça en toute sécurité. On est trois apnéistes. Il y a Olivier qui est là. Donc, c'est-à-dire qu'on se surveille les uns les autres. Mmh. On a aussi le caméraman qui nous filme, Jacques. Et donc, on fait ça, voilà, avec beaucoup de plaisir pour découvrir ce monde, mais fascinant. Parce ouais. que sous l'eau, vous avez également des petites bulles d'air qui remontent à la surface. En fait, tout simplement, c'est l'érosion de la glace qui libère ces bulles qui sont peut-être enfermées depuis des milliers d'années. Et donc, vous êtes dans un autre, comme si vous vous baigniez, en fait, dans un verre de limonade avec ces bulles qui remontent, avec cette glace bleue. C'est complètement envoûtant.
L'ivresse des profondeurs, on entend souvent parler, surtout depuis qu'on a vu Le Grand Bleu. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir envie de descendre sans plus jamais remonter, Tanguy Le Goff?
On recherche toujours un petit peu cette aisance, bien entendu, de vraiment l'apnée, ça nous apporte ça, cette sérénité intérieure qui nous permet de rester longtemps. Mais n'oublions jamais, et c'est là où le fait d'être à plusieurs en sécurité, on n'oublie jamais la sécurité, et on n'oublie jamais qu'à un moment donné, il faudra remonter, et on est habitué, justement, même profond, à ressentir le moment quand on doit remonter, et qu'il est temps de remonter, oui.
Alors, des rencontres avec des animaux, vous en avez faites, notamment avec une otarie. Racontez-nous, elle a l'air très joueuse, cette otarie, gracieuse, elle virevolte. Racontez-nous cette rencontre.
Oui, donc on est parti découvrir une baie. Et puis là, au loin, on a vu des otaries à fourrure qui sont assez nombreuses en Antarctique, surtout dans cette péninsule. Et on s'est approché, tout simplement. On a commencé à nager entre nous. Et puis elles sont venues nous rejoindre. Voilà, en fait, les animaux voient, je pense, peu l'homme. Donc ils sont curieux de nature. Donc ils viennent nous voir et puis on commence à nager avec eux. Et puis, après quelques minutes, on joue tout simplement. C'est un espèce de cache-cache. Elles vont derrière un caillou, elles reviennent, elles repartent, elles sautent par-dessus nous. Donc on a joué tout simplement avec elles pendant à peu près une heure.
Elles sont importantes, Bruno David, les populations d'otaries dans cette région du globe?
Alors, elles sont particulièrement importantes sur la péninsule, mais il faut savoir qu'elles étaient immensément importantes au début du 19e siècle. Et puis, la chasse aux otaries s'est déclenchée dans les années 1820. Il s'en est tué pas loin de pas mal de millions quand même, en quelques années, très rapidement. Ah oui, ça a été une hécatombe absolument extraordinaire. On possède les relevés des bateaux qui allaient pêcher ces otaries, notamment qui étaient des bateaux surtout américains, des États-Unis. Et on a tous les relevés, jour par jour, ils tuaient 5000 otaries par jour. C'était à peu près ça, chaque bateau. Donc il faut voir l'hécatombe que ça a représenté. L'espèce a quasiment disparu, on pensait qu'elle était complètement disparue. Et puis il y a quelques otaries qui sont réapparues il y a une cinquantaine d'années à peu près. On a vu des petites populations s'installer et maintenant elles se réinstallent progressivement. Mais elles sont très 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 loin d'avoir retrouvé les effectifs qu'elles avaient en 1800.
C'est-à-dire qu'on ouvrait l'émission en parlant de la biodiversité très riche du lieu. C'est quand même une biodiversité qui souffre actuellement.
Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle du futur de cette biodiversité, pour le moment, la biodiversité antarctique souffre assez peu. Les problèmes qui peuvent se poser, c'est des problèmes qui vont être liés au réchauffement. Il y a certaines parties de l'Antarctique qui se réchauffent beaucoup, il y a d'autres parties qui ne se réchauffent pas. Mais sur la péninsule, là où sont allés nos apnéistes, Laurent et Tanguy, c'est un endroit qui se réchauffe relativement rapidement. Ce qui fait qu'il pourrait venir ici des espèces venues de plus au nord, des espèces envahissantes qui viennent du nord, et notamment des crabes. Il n'y a pas de crabes en Antarctique, où il y en a très très peu, et qui pourraient s'attaquer à des espèces relativement fragiles, donc qui pourraient venir perturber les écosystèmes antarctiques, qui sont quand même très très particuliers.
Mais d'où viendraient-ils ces crabes ?
Ils viendraient d'Amérique du Sud, ils peuvent venir
par
dans les eaux de ballast des bateaux.
Ouais.
Oui, ils peuvent venir par bateau. Il y a de plus en plus de bateaux de touristes qui viennent. Il y a une île qui est magnifique, qui s'appelle Deception Island, l'île de la déception. Et malgré ce nom, c'est une île absolument formidable. C'est Santorin, mais à l'Antarctique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un cratère qui est ouvert sur la mer, avec la mer qui rentre à l'intérieur du cratère. On a des sources chaudes à l'intérieur du cratère, donc des eaux un petit peu plus chaudes. Et il y a beaucoup de touristes qui viennent là, il y a des bateaux qui viennent, qui pourraient transporter des larves de crabes venues du nord. Donc venues du nord dans l'océan Austral, ça veut dire venues d'eau plus chaude. Si ces larves sont libérées dans ces endroits-là, elles pourraient survivre. Et on a, il y a quelques années, il y a peu d'années, très peu d'années, observé une espèce de crabe justement venue du nord. On a trouvé un individu. Alors un individu, ça ne fait pas une invasion. Mais cette île de la Déception pourrait jouer le rôle d'un petit peu de cheval de Troie, en quelque sorte, pour des espèces potentiellement invasives qui viendraient perturber considérablement ces écosystèmes de l'océan Austral, qui, comme je vous le disais, sont très très particuliers, avec des faunes très particulières, avec des équilibres particuliers, avec beaucoup d'organismes filtreurs, beaucoup d'éponges qu'on n'a pas ailleurs, et des organismes qui n'ont pas l'habitude de rencontrer des prédateurs très mobiles, notamment, comme les crustacés.
Alors, des prédateurs mobiles, vous en avez rencontré, hein, vous, Tanguy Le Goff, et pas des moindres. C'est un phoque léopard des mers, c'est comme ça qu'on l'appelle?
Le phoque léopard, oui, c'est
alors,
ça.
Décrivez-le. Alors,
il est très impressionnant. En fait, c'est un phoque qui, déjà en surface, on le remarque assez bien. Il a les deux narines qui ressortent de l'eau, là, et il respire en ouvrant ses narines. C'est assez spectaculaire à voir, en faisant du bruit, en soufflant. Et très rapidement, il a une nage un petit peu particulière par rapport aux autres phoques. En fait, il a une nage en forme de serpent, en fait, et il ondule en surface. Et il a forcément une aquaticité hors norme. Il est extrêmement mobile dans l'eau. C'est magnifique à voir.
Et visiblement, il vous a impressionné.
Lâchez le bulle, là. Attention, hein. Ça va, putain. Hey, j'ai jamais vu une aussi grosse femelle, là. Allez, on y va tranquille, on rame.
Allez. La prudence prime, c'est bon, elle est écartée, on peut avancer.
Allez, elle est juste dessous, là. Fais gaffe qu'elle mord pas le boudin, c'est le risque.
Ouais,
c'est tu tapes sur le zodiac comme ça. C'est dong dong. Ouais, voilà, voilà.
Alors c'est amusant quand on est avec des apnéistes autour d'une table, c'est qu'ils se font plein de gestes parce qu'ils sont habitués à communiquer sous l'eau sans parler. Du coup ils font plein de gestes que je ne comprends pas forcément. Mais alors c'est ce léopard, celui-là c'était une femelle, 4 mètres, et le lâcher de bulle, ça veut dire que vous n'étiez plus les bienvenus. Hein.
Exactement. Voilà, c'est tout simplement la sonnerie, c'est la fin de la récré. Bon, maintenant, je vous ai assez vu, il faut sortir.
Sachant que ça a commencé avec un bébé, un plus jeune, léopard, qui visiblement, vous aviez plutôt sympathisé, il était content de nager avec vous. Quand elle est arrivée, ça n'était plus vraiment la même histoire.
Oui, nous étions au début avec un jeune mâle, il faisait 200 kilos quand même.
Oui, c'est ça, le petit est déjà assez gros finalement.
Et puis voilà, donc on faisait des immersions et c'est vrai que quand on rentre dans l'univers du phoque léopard sous l'eau, eh bien on était en train de s'observer. Mmh. Et donc le rapprochement s'est fait progressivement, peu à peu, et on a même fait des immersions à un mètre l'un de l'autre en se regardant. Et c'est l'un des prédateurs les plus grands de l'Antarctique. Donc il y a comme une espèce de curiosité réciproque et soudain, voilà, il y a cette femelle qui fait 600 kilos qui arrive. Et là, on voit bien que c'est la propriétaire des lieux. Et elle nous regarde, voilà, elle nous observe. Elle éloigne le mâle pour montrer peut-être sa propriété. On essaye de tirer un petit peu des explications à ce qu'on l'observe. Et ensuite, elle vient nous voir. Et puis, face à nous, presque nez à nez, elle nous crache des bulles. Voilà, donc là, il faut sortir de l'eau.
C'est un avertissement.
C'est un avertissement. On n'est jamais allé plus loin. Donc tout simplement, là, on remonte sur notre annexe et on rejoint le bateau.
Tanguy Le Goff.
Oui, il faut savoir que dans le monde aquatique sous-marin, dans le monde plutôt mammifère marin, le lâcher de bulle est considéré plutôt comme un geste de communication avec
agressif.
Plutôt d'agressivité. Voilà.
Bruno David, vous qui êtes un plongeur avec bouteille, vous êtes un animal marin qui produit énormément de bulles, vous devez être vu comme un agresseur.
Écoutez, je sais pas, je suis pas dans la peau des animaux qui m'environnaient. Je travaille quand même sur les oursins, donc les oursins, je sais pas s'ils m'ont vu beaucoup avec beaucoup de bulles. Les manchots, sans doute. J'ai eu la chance de ne pas croiser de phoques léopards. Il faut savoir qu'il y a quelques années, sur la base antarctique anglaise, sur ouais. Alexander Island, je crois, il y a une chercheuse qui est morte, hein, qui a été tuée par un phoque léopard, hein, qui l'a entraînée au fond. Elle était en apnée, enfin en tuba, pas le masque tuba, simplement sans bouteille,
ouais.
Et elle a été tuée par un phoque léopard. C'est pas une plaisanterie. Et là, je suis franchement très admiratif devant nos deux apnéistes qui ont été croisés des phoques léopards, ouais. Et je les félicite d'être ouais. sortis de l'eau à temps.
C'est un
animal redoutable.
Vous les félicitez ou vous trouvez qu'ils ont fait preuve d'un peu d'inconscience, honnêtement?
Écoutez, franchement, j'étais pas avec eux, je ouais. sais pas du tout comment ça s'est passé, et je ne pense pas que ça soit de l'inconscience, sinon ils seraient pas là aujourd'hui pour nous parler et nous raconter leur ouais. merveilleuses aventures, hein. Donc, ils ont été suffisamment prudents et réalistes pour sortir de l'eau à temps. Mais c'est un animal absolument redoutable, hein.
Il se nourrit de quoi?
Alors, il se nourrit de manchots. Ils adorent les manchots. Les manchots sont pas si gros que ça. Il n'y a pas que les manchots empereurs ou les manchots royaux qui sont des très gros manchots. Il y a des manchots adélie, des manchots papous, des manchots à jugulaires qui sont des manchots de relativement petite taille qui font une cinquantaine de centimètres de haut. Donc les phoques léopards s'en nourrissent. C'est l'essentiel de leur nourriture. Ils peuvent aussi capturer des poissons quand il y en a. Enfin, il y a quelques poissons, oui. Ils peuvent se nourrir d'organismes qui vivent aussi sur le fond, mais leur nourriture principale, ce sont les manchots.
Ils ne touchent pas aux oursins que vous avez l'air d'affectionner, puisque c'est sur les oursins que vous travaillez, vous?
Moi, je travaille sur les oursins, oui. Je pourrais vous en dire beaucoup là-dessus. Vous parlez des oursins kangourous, par exemple.
Non,
ils ne mangent pas les oursins. Non.
Ouais. Alors justement, les oursins kangourous, apparemment énormément d'espèces d'oursins dans ces régions du globe. L'oursin kangourou, il a une poche?
Oui, oui, ce sont des oursins qui ont des poches. Alors, sur le nombre d'espèces d'oursins, si je peux dire un mot sur la richesse ouais. des oursins, il y a à peu près 80 espèces d'oursins dans l'océan Austral. Alors, on pourrait penser que c'est pas si énorme que ça, mais si on compare à ce qui se passe chez nous, entre la Méditerranée et tout l'Atlantique de Gibraltar au Cap Nord, il y a une quarantaine d'espèces. Donc, vous voyez le rapport entre les deux, il y en a le double dans l'océan Austral, qui pourtant est relativement plus homogène. Et parmi ces espèces d'oursins, il y a énormément d'espèces qu'on appelle des oursins kangourous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un oursin kangourou? C'est pas du tout un oursin qui saute. Hein.
C'est
un
dommage.
Oursin dont les... Oui, c'est dommage, ça serait amusant. Ce sont des oursins dont les femelles ont des poches sur le dos. Alors, pourquoi ces femelles ont des poches sur le dos et les mâles n'en ont pas? En fait, c'est parce qu'elles, normalement, un oursin standard, si vous voulez, le mâle et la femelle émettent les gamètes dans l'eau de mer. Il y a une fécondation externe qui a lieu dans l'eau de mer. Ça donne un petit œuf qui va se transformer en une petite larve qui va vivre un certain nombre de semaines dans le plancton, se nourrir dans le plancton, et puis se métamorphoser en un jeune oursin au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça dépend des espèces. Chez ces oursins kangourous, les femelles fabriquent des œufs qui sont beaucoup plus riches en réserves nutritives, qui restent sur le dos de la femelle, qui sont fécondés par les spermatozoïdes émis par le mâle sur le dos de la femelle, et qu'ensuite la femelle met dans des poches qu'elle a sur le dos, un petit peu comme des sacs à dos, des poches, des sortes de dépressions qu'elle a sur le dos. Donc elle fabrique beaucoup moins d'œufs, au lieu d'en fabriquer des milliers et des milliers, elle en fabrique une centaine ou deux centaines. Et les jeunes oursins vont se développer à l'intérieur de ces poches, protégés par les piquants, et ils vont rester là-dedans pendant pas mal de mois. Il y a des espèces d'oursins qui gardent leurs jeunes comme ça pendant 9 mois, un petit peu comme chez nous. Et puis au bout de ces 9 mois, les jeunes sortent des poches, se posent à côté de leur mère, et puis commencent à mener leur vie d'oursin libre. Et il y a même une espèce d'oursin qu'on a découvert avec un collègue américain, qui est totalement extraordinaire. Au lieu de faire quelques centaines d'œufs, ce qui est déjà très peu pour un oursin, il en fait quelques dizaines. Et il y a une douzaine de jeunes qui se développent dans des poches, mais qui cette fois sont carrément à l'intérieur de la femelle. Et qui communiquent avec l'extérieur par des sortes de portes qui sont des plaques articulées par des charnières en collagène. Le collagène, c'est ce qu'on a dans la peau. Hein. Mmh. Donc on a des charnières de collagène, des plaques qui sont complètement articulées. Les jeunes deviennent énormes par rapport à la taille de la mère. Enfin, ils sont plus petits que la mère puisqu'ils sont à l'intérieur. Mais enfin, ils deviennent vraiment très très gros. Les plaques s'ouvrent et puis les jeunes sont libérés à l'extérieur. Et c'est un mode de reproduction unique, absolument unique chez les oursins qui a été découvert, qu'on a découvert il y a une vingtaine d'années maintenant.
Bruno David, passionné des oursins. Dans un instant, on va faire le grand écart. On va passer des oursins aux baleines. C'est beau comme une fable de La Fontaine. Nous évoquerons donc l'une de vos plus belles rencontres, celle que vous avez faite avec ces baleines que vous êtes venus chercher. Nous sommes toujours en compagnie des deux apnéistes, Laurent Marie et Tanguy Le Goff, qui sont allés plonger dans les eaux antarctiques, les eaux gelée de l'Antarctique. Nous sommes également avec Bruno David, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la biodiversité marine. Et lorsque vous êtes allé là-bas, vous aviez une sorte de rêve. D'ailleurs, dès le début de cette interview, vous m'en avez parlé, les baleines, c'était un petit peu le rêve ultime. Vous vouliez nager avec les baleines que l'on trouve dans ces eaux froides. Et alors, évidemment, vous les avez approchées. Il faut voir la scène. Hein. Vous êtes sur votre petit Zodiac. Vous avez un hydrophone. C'est un micro qui permet d'écouter, qu'on plonge dans l'eau et qui permet d'écouter. Vous avez un casque sur les oreilles et vous les traquez en quelque sorte jusqu'à ce que, oui, vous entendiez le chant des baleines. Alors là, évidemment, on voit le sourire d'enfant sur vos visages au moment où vous entendez ces sons. Alors, elles n'ont pas toujours été très accueillantes. La première que vous croisez, elle était avec son petit. Et là, vous comprenez que vous n'êtes pas les bienvenus. De quelle manière vous comprenez ?
Bah, tout simplement, avec sa nageoire pectorale, elle nous fait un signe pour nous chasser. Et puis, toutes nos immersions passent par de longues phases d'observation. Voilà, on veut vraiment des approches respectueuses. On veut que les animaux viennent vers nous. On les pourchasse pas, en fait.
Ouais. Il y a une vraie approche, effectivement, de longues heures à regarder le comportement de l'animal, à aussi surveiller les conditions climatiques, évidemment, et puis votre propre état à vous.
Oui, et puis le risque en approchant une mère et son baleineau, tout simplement, comme un enfant, ses joueurs, ce baleineau va vouloir venir jouer avec nous, et la mère va vouloir forcément le protéger. Donc on va créer un problème relationnel, et ça, c'est ce qu'on ne veut pas faire.
Bruno David, la maman baleine est particulièrement protectrice ?
Écoutez, je ne suis pas spécialiste des baleines. Enfin, je suppose que oui, ce sont des mammifères avec des comportements assez élaborés. Et je pense qu'elle, effectivement, elle a envie de protéger son baleineau. D'autant que ce sont des espèces qui font très peu de jeunes. Donc elle en a très peu. Ça veut dire que les soins parentaux sont très importants. Et moins une espèce fait de descendants a de jeunes, d'enfants, si vous voulez, plus elle en prend soin. Donc ça sera le cas des baleines, effectivement.
Et puis, Laurent Marie et Tanguy Le Goff, à force d'observer les baleines, vous finissez par trouver un petit groupe de 3 ou 4 baleines. Et là, apparemment, c'est le moment. Elles ont envie d'interagir avec vous, de jouer avec vous.
Oui, nous sommes près de l'île Cuverville. Et au matin, on décide de mettre le cap justement vers cette île de déception pour rentrer de notre voyage. C'est le dernier jour de notre aventure.
Et apparemment, c'est un moment magique.
C'est le deuxième temps de la danse. 40 tonnes, tout en cabriole, en révérence. Les sirènes nous entraînent vers le fond, en nous guidant de leur ventre blanc. Dans leur douce folie, elles nous toisent de leurs nageoires démesurées, qui nous frôlent. Mais heureusement, ne nous touchent jamais. Étonnante délicatesse. Leur chant nous sonne, nous percute comme un appel à rester plus longtemps sous l'eau. Devenir sirène. Mais le courant essaie de nous séparer, nous épuise. Il nous faut respirer sans cesse, alors que ces divas nous réclament. Nous luttons pour rester avec elles par 15 mètres de fond, tendant les bras pour imaginer l'étreinte improbable. L'âme bleue, elle nous salue, réjouie, pleine de grâce.
Un moment qui doit rester gravé à jamais dans votre mémoire d'apnéiste, Laurent Marie, Tanguy Le Goff. Vous étiez 3, hein. Il y avait 3 apnéistes, le 3e s'appelle Olivier Grenier. Quelle taille faisaient-elles ces baleines exactement ?
Ça fait 15 mètres de long, environ, une baleine à bosse.
Vous êtes de la taille d'une nageoire, hein. Même la nageoire est plus grande que vous.
Oui. Nageoire pectorale, oui, est encore peut faire un tiers de l'animal, de longueur de l'animal. Hein. Donc, on est tout petit à côté. Et ces baleines-là que l'on rencontre le dernier jour de cette expédition tournent autour du bateau. Elles sont 4. Donc, c'est notre chance. On s'équipe, on s'immerge. Et puis là, elles viennent nous voir, donc. Quand elles viennent vous voir, si vous voulez, elles sortent leur rostre de l'eau, c'est leur tête, pour vous observer. Ensuite, elles se laissent couler vers le fond, elles s'immergent, Donc là, vous faites un canard, vous immergez avec elle, vous les accompagnez sur une petite distance, hein, peut-être 10, 15 mètres de profondeur. Et là, ce qui est fou, c'est que à cette profondeur, elles s'arrêtent, elles se mettent sur le dos, elles jouent avec leurs nageoires et vous les accompagnez pendant quelques mètres, pendant même de longues secondes pour nous. Alors ça leur paraît dérisoire parce que nous, nos immersions sont très réduites. Et puis elles chantent. Voilà. Et donc ce son vous transperce et vous êtes là avec Olivier, Tanguy, vous voyez sous l'eau et c'est un moment qui est complètement magique.
Absolument. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est sous l'eau comme ça, on ressent de manière très très forte en fait ces vibrations sonores. Et donc ce chant, non seulement on l'entend avec nos oreilles, mais on le ressent avec tout notre corps, avec ces vibrations, avec des modulations de vibrations différentes. Et vraiment, c'est au niveau de l'estomac, du ventre, qu'on arrive vraiment à... Enfin, c'est quasiment tout le corps, quoi. Et ça résonne dans l'ensemble du corps. Et vraiment, ça donne une impression d'osmose, de communication extraordinaire avec ces animaux.
Vous étiez serein, vous étiez intimidé, aucun moment vous avez eu peur, vous vous êtes dit elle pourrait nous aplatir, nous entraîner au fond.
Alors on fait attention, il y a des règles de sécurité à respecter, ne jamais se mettre entre deux baleines, ne pas se mettre derrière une nageoire caudale. Donc
c'est le code de la navigation quand on navigue avec les baleines.
Oui, voilà, on tente de respecter, même si c'est pas facile, mais à partir d'un moment, peut-être au bout de la deuxième heure, là, les baleines s'excitent complètement. C'est-à-dire que là, elles tapent avec leur pectoral, elles tapent avec leur nageoire caudale. Donc, c'est une atmosphère qui est vraiment très sonore. Elles se mettent également sur le dos. Et là, j'ai rencontré Claire Garrick, qui est une des spécialistes des cétacés en Nouvelle-Calédonie. Et quand les baleines, apparemment, se mettent sur le dos, c'est un acte de socialisation qu'elles font entre elles. Et là, elles font ça en notre présence. Et donc, elles sont restées pendant 4 heures avec nous. Donc, c'est assez incroyable. Jean-Yves, le capitaine du bateau, lui nous dirige sur les baleines. Et puis, mon père, qui est photographe de l'expédition, prend ses photos. Jérôme qui filme. Donc, on est tous plongeurs et membres de l'équipage, en pleine communion avec ces baleines.
Bruno David, vous avez vécu des moments aussi forts, vous, lors de vos plongées en Antarctique?
J'ai pas eu cette chance de croiser des baleines en plongée. Alors j'ai vu pas mal de baleines en surface, hein, bien sûr, depuis les bateaux. Mais j'ai pas plongé avec des baleines, j'ai plongé avec des dauphins. Ouais. Des dauphins de Commerçon à Kerguelen. Je me souviens très bien d'une plongée où je ramassais des oursins au fond avec un collègue. Et on s'est rendu compte de rien, on était le nez dans la vase en train de ramasser nos bestioles. Et quand on est remonté, il y avait toute une série de dauphins qui jouaient dans nos bulles, qui nous tournaient autour. Le Zodiac qui faisait l'assistance, évidemment, les avait vus. Et puis tout le monde jouait avec les dauphins et ça a été un souvenir, j'ai encore les images en tête, ça a été un souvenir absolument fantastique. Ce sont des dauphins assez petits qui sont noirs et blancs, qui s'appellent les dauphins de Commerçon, qui sont de très très jolis animaux.
Alors ceux-là sont petits, mais si j'ai bien compris, dans ces eaux, il y a pour certains organismes vivants un phénomène de gigantisme, c'est-à-dire qu'on trouve alors des étoiles de mer immenses. Expliquez-nous ça.
Alors oui, effectivement, dans cette biodiversité antarctique, notamment la biodiversité qui peuple le fond de la mer, qui est posé au fond, il y a pas mal d'organismes qui habituellement, sous d'autres climats, sont des organismes d'assez petite taille et qui ont des tailles beaucoup plus importantes en Antarctique. Alors c'est assez frappant chez des étoiles de mer, effectivement, des étoiles de mer qui peuvent faire plusieurs, enfin 5, 6 kilos, qui sont des étoiles de mer qui font jusqu'à 50 cm ou 60 cm de diamètre, donc c'est vraiment des grosses bêtes. On a un cousin des étoiles de mer qui s'appelle les ophiures, qui ont des bras très frêles, qui sont des bêtes qui font de l'ordre de entre 5 et 10 cm maximum sous nos climats, et qui font jusqu'à 40 cm en Antarctique. On a des sortes d'araignées de mer un peu bizarres, qui s'appellent, alors un nom un petit peu compliqué, qui s'appellent des pycnogonides, qui sont des bêtes de petite taille sous nos climats pareils, qui sont des bêtes centimétriques et qui là sont décimétriques en Antarctique. Et ça, c'est lié à des métabolismes ralentis. Dans les eaux froides, les métabolismes sont souvent ralentis pour être efficaces. Et ces métabolismes ralentis font que la maturité sexuelle est acquise plus tardivement, que les durées de vie sont beaucoup plus longues. On a des éponges qu'on a considérées être millénaires. Donc c'est pour vous donner une idée de la durée de vie
donc
de ces organismes.
Donc elles vivent plus longtemps, au ralenti, mais plus longtemps. Et donc elles ont une croissance qui ne finit jamais. Donc elles ont le temps de devenir immenses, ces étoiles de
tout
mer.
Tout se passe plus lentement, si vous voulez, et puis la croissance est une croissance infinie, enfin comme celle d'un arbre qui ralentit, mais qui ne s'arrête jamais, donc elles ont le temps de devenir beaucoup plus grosses. sur des durées de vie beaucoup plus longues. On a des étoiles de mer qui sont centenaires, on a des oursins qui vivent 80 ans. Enfin bon, on est dans des conditions un petit peu particulières avec ces métabolismes ralentis et ces durées de vie très très longues.
Dans un instant, vous répondrez aux questions des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr, à la page du Temps d'un Bivouac et sur la page Facebook de l'émission.
Ce serait pas de la neige que je vois là?
Cette épave là, super.
Ah, de nuit, putain, ouais, c'est fantasmagorique.
C'est génial, hein.
Et le beau petit poisson, il était sympathique. Une ambiance extra.
Ah, moi j'adore.
Oui, on entend tout l'enthousiasme de Laurent Marie et Tanguy Le Goff, les deux apnéistes qui ont eu cette chance d'aller plonger dans les eaux froides de l'Antarctique. Là, c'était une plongée de nuit sur une épave, hein, c'est ça. Vous êtes aussi intéressé aux épaves, un vieux baleinier qui était là depuis presque un siècle.
Voilà, c'est ça. On a retrouvé d'ailleurs à côté de ce baleinier des ossements de baleines qui ont été tués il y a plus de 100 ans. Et de plonger des nuits, c'est comme si on rentrait quelque part dans l'histoire. Et puis on voit tous ces micro-organismes bioluminescents qu'on éclaire avec notre lampe. Donc on se croit un petit peu dans l'espace. C'est assez incroyable.
Valérie vous envoie cette question par mail. Est-ce que plonger dans l'Antarctique nécessite beaucoup d'entraînement? Tanguy Le Goff.
Alors, effectivement, on n'est pas des débutants, on est apnéiste depuis longtemps, oui. On fait ça depuis des années, on est même moniteur, on apprend aux autres.
C'est Mais vous y êtes préparé vraiment? Alors plus psychologiquement, physiquement?
Pas vraiment, en fait, on est habitué à aller dans les eaux froides en Bretagne, on est régulièrement en dessous des 10 degrés, ça pose pas de soucis particuliers, c'est juste une question de mental, de travail sur soi pour accepter ce froid. Bon, effectivement, on a aussi un petit peu d'équipement qui nous permet d'améliorer ce confort thermique, mais au-delà de ça, c'est vraiment c'est assez facile pour n'importe quel apnéiste entraîné de pouvoir le faire.
Bruno David, alors on a parlé de ces grosses bêtes qui fascinent, mais vous, l'œil du scientifique, fait que vous vous intéressez parfois à des petites bêtes plus étonnantes. Celle qui vous fascine le plus, c'est une anémone, je crois. Je vais pas réussir à la prononcer. Edvardsiella
andrillée.
Dites-nous ce qu'elle a de fascinant.
Alors, bon, vous avez la calotte glaciaire sur le continent et cette calotte glisse progressivement du continent et quand elle arrive au niveau de l'océan, la poussée d'Archimède étant plus forte que son propre poids, elle va flotter à la surface de l'océan. Donc ça va faire ces immenses plateformes de glace qui font 300-400 mètres d'épaisseur et qui flottent à la surface de l'océan sur d'assez grandes surfaces, notamment dans la mer de Weddell et puis dans la mer de Ross de l'autre côté de l'Antarctique. Et les Américains ont fait des forages à travers ces plateformes sur plusieurs centaines de mètres d'épaisseur jusqu'à atteindre l'eau libre qui est dessous, en quelque sorte, qui est piégée dessous. Et à leur très grande surprise, c'est un petit peu comme une endoscopie, une opération par endoscopie. Ils sont descendus une caméra par le trou sur quelques centaines de mètres au bout d'un câble. Puis ils ont filmé ce qu'il y avait sous la plateforme de glace. Et ils ont vu des anémones qui étaient accrochées la tête en bas sous la glace. Donc ils vivent à l'envers, en quelque sorte. Leur plancher, c'est un plafond, et elles sont fixées sur la glace, et on se demande encore, c'est très récent comme découverte, hein, ça date d'il y a 2 ans, je crois, et on se demande vraiment comment elles font, parce que la glace se renouvelle en permanence, elles font, en quelque sorte, si vous voulez, puis elles bougent, et donc ces anémones doivent avoir un système de fixation qui leur permette de s'adapter à ça. On se demande évidemment avec quoi elles se nourrissent forcément de microparticules, mais qui doivent faire un très long chemin depuis l'eau libre jusqu'à arriver jusque vers elles, enfin c'est un environnement très très particulier. Ouais. Et on a même trouvé pire, c'est-à-dire qu'en fait, si on fait un forage encore plus proche du continent, là, il n'y a qu'une dizaine de mètres d'eau sous une épaisseur considérable de glace, et là, on trouve également des organismes qui sont là. Et on ne s'attendait pas du tout à trouver ces organismes-là, parce qu'on se demande vraiment d'où vient la nourriture.
Ouais. Bruno David, quand on vous écoute, on comprend à quel point ce monde, on le connaît encore à peine, et avant de le détruire, ce serait quand même bien qu'on ait eu le temps de l'étudier et de le comprendre. Et c'était aussi une des raisons, peut-être, de votre voyage à tous les deux, Laurent Marie et Tanguy Le Goff. C'est-à-dire qu'on a parlé de cette expérience qui vous a évidemment bouleversé, certainement laissé de nombreuses traces, mais il y avait aussi une envie de partager, et quand on connaît, on a plus envie de protéger.
Oui, bien sûr, quand vous rentrez dans une salle de classe, bah, vous voyez la carte du monde, et l'Antarctique, vous voyez juste une petite partie, cette péninsule. Donc les enfants, quand on va les rencontrer, bah, ils ont pas une grande idée sur l'Antarctique. Donc notre but, c'est notre volonté, c'était de leur montrer justement cette beauté, de les faire rêver, de leur montrer aussi qu'on peut dans la vie réaliser ses rêves en donnant de l'énergie pour ça. Et ensuite, leur montrer toute cette biodiversité, tous ces animaux qu'on a pu rencontrer, de leur montrer aussi des photos de plancton qu'on a fait.
D'ailleurs, vous ferez paraître, alors c'est pas pour tout de suite, mais ça sortira en décembre, un livre à l'attention des enfants sur justement ces découvertes que vous avez faites en Antarctique, je crois.